Антон Чехов. Путешествие на остров Сахалин.
Антон Чехов. Le voyage à Sakhalin.
Читает Владислав Галяр.
Lu par Vladislav Galard.
Vous avez besoin de ma biographie? La voici. Né à Taganrog en 1860. Achève en 1879 mes études au lycée de Taganrog. En 1884, celle de médecine à la faculté de Moscou. Reçoit en 1888 le prix Pushkin. Effectue en 1890 un voyage à Sakhalin via la Sibérie et retour par la mer. En 1891, séjourne en Europe où je bois un vin magnifique et mange des huîtres. En 1892, bamboche à une fête en compagnie de Vladimir Alexeïevitch Tikhonov. Ai commencé à écrire en 79 dans la Libellule. Liste de mes recueils. Récits bigarrés, Au crépuscule, Récits, Des gens maussades et une nouvelle, Le duel. Ai également commis quelques pièces, mais avec modération. Suis traduit dans toutes les langues, hormis les langues étrangères. Les Allemands, en fait, m'ont traduit depuis longtemps, les Tchèques et les Serbes m'apprécient également, et les Français ne sont pas contre la réciprocité. Ai percé les mystères de l'amour à l'âge de 13 ans. Suis en excellent terme avec mes camarades médecins, aussi bien qu'homme de lettres. Célibataire. Aimerais toucher une pension. Pratique la médecine, au point même de faire quelquefois l'été des autopsies médico-légales. Mon écrivain préféré, Tolstoï. Mon médecin préféré, Zakharine. Tout cela n'est que sornette. Écrivez n'importe quoi. Si les faits manquent, remplacez-les par du lyrisme.
Пятая и последняя серия.
Cinquième et dernier épisode.
Черт меня знает.
Le diable seul le sait. 1890, Tchekhov a 30 ans. Le 21 avril, il part de Moscou. Direction les extrêmes confins orientaux de l'Empire et l'île de Sakhalin, terre de bagne, où il accoste le 11 juillet, au terme d'un voyage qui est, en soi, une épreuve et une initiation. La Russie, traversée de part en part, d'ouest en est, 11 000 verstes, 12 000 kilomètres, 50 jours de chaos et de boue, de rivières en crue et de plaines inondées, des cieux rompus, le vent glacé auquel succède sans annonce une soudaine et infernale chaleur, la poussière et les moustiques, les punaises, les attentes interminables, l'ennui. Tchekhov s'exalte de ces impressions diverses qu'il recueille dans un flot continu de lettres aux siens, à sa famille et à ses amis, et dans les notes de Sibérie qu'il adresse à son éditeur Souvorine. Il restera 3 mois et 2 jours à Sakhalin, mais sa plume se tait et plus aucune lettre. Il y a pourtant tout vu, si ce n'est une exécution capitale. Le bagne qui avilit les hommes, les peines corporelles et le supplice du fouet, la faim, les conditions de vie dégradantes des femmes, la prostitution, l'enfance abandonnée, souillée. Il remplit 10 000 fiches, conservées aujourd'hui à la bibliothèque Lénine de Moscou, et fait œuvre de science. Tour à tour sociologue, historien, géographe, ethnologue, statisticien, médecin. S'il croit visiter le paradis en faisant escale à Ceylan lors de son voyage de retour par la mer, et qu'il y écrit un récit, Goussiov, le seul de l'année 1890 avec les voleurs parus au printemps, Tchekhov ne reviendra jamais tout à fait de ce véritable enfer. Je regrette de n'être pas sentimental. Sinon, je dirais que des lieux tels que Sakhalin devraient être des lieux de culte, où nous nous rendrions comme les Turcs vont à la Mecque, avait-il conjecturé avant son départ. J'ai vieilli, constatera-t-il 8 mois plus tard, une fois rentré chez lui à Moscou. Bien plus que cela. Sakhalin, terre malade, l'aura infecté.
Alexei Sergeevich Souvorin.
Alexeï Souvorine, homme de lettres et éditeur, propriétaire du journal Temps Nouveau, l'un des quotidiens les plus lus de toute la Russie. Souvorine publie les récits de Tchekhov dès 1886 et devient une sorte de père de substitution pour l'écrivain. Jusqu'à l'affaire Dreyfus, qui met fin en 1894 à l'amitié entre les deux hommes.
Москва, 9 декабря 1890.
Moscou, le 9 décembre 1890. Bonjour, mon très cher. Hourra ! Me voici enfin de retour à ma table de travail. J'adresse une prière à mes pisseux pénates et vous écris. Je suis en bonne santé et prospère jusqu'à la moelle. Voici pour vous un très bref compte-rendu. Je n'ai pas passé à Sakhaline 2 mois, comme vous l'avez fait publier, mais 3 mois et 2 jours. J'y ai travaillé de manière intense. J'ai établi un recensement complet et détaillé de toute la population de l'île, et j'ai pu voir tout, sauf une exécution capitale. Quand nous nous verrons, je vous montrerai une pleine malle remplie de tout un bric-à-brac rapporté du bagne, qui en tant que matériau brut a une valeur inestimable. Je sais maintenant beaucoup de choses, mais je rentre avec un sentiment désagréable. Tant que je vivais à Sakhaline, mes entrailles n'éprouvaient qu'une vague amertume, comme celle que provoque le beurre rance. Mais maintenant, dans mes souvenirs, l'île de Sakhaline me paraît un véritable enfer. Grâce au ciel, le 13 octobre, le bateau m'emportait loin de Sakhaline. Je suis passé à Vladivostok, puis au large du Japon, à cause du choléra. C'est pourquoi je ne vous ai rien acheté de japonais. Le premier port étranger sur ma route fut Hong Kong. La baie est merveilleuse. La circulation sur la mer est telle que même en peinture, je n'avais jamais rien vu de pareil. Il y a des routes magnifiques, un chemin de fer qui grimpe à flanc de colline, des musées, des jardins botaniques. Où que l'on porte son regard, on ne voit que la plus tendre sollicitude des Anglais à l'égard de leur personnel. Il y a même un club pour les matelots. Quand nous avons quitté Hong Kong, le bateau s'est mis à tanguer. Il était vide et ses oscillations atteignaient 38 degrés, si bien que nous avions peur qu'il ne chavirât. Puis vint Ceylan, un lieu qui a été le paradis. J'ai parcouru là, dans ce paradis, plus de 100 verstes en chemin de fer, et je me suis repu de palmiers et de femmes à la peau de bronze. Quand j'aurai des enfants, je leur dirai, non sans fierté, « Vous êtes des enfants de salauds !» Je me suis accouplé en montant avec une hindoue aux yeux noirs, et où ? Dans une plantation de noix de coco, au clair de lune. De Ceylan, nous avons navigué 13 jours sans escale, totalement ahuri par l'ennui. Je supporte bien la chaleur. La mer Rouge est sinistre. J'ai été ému en voyant le Sinaï. Le monde a été bien fait. À une exception près. Nous. Nous avons si peu d'humilité et de sens de la justice. Nous comprenons si mal le patriotisme. Au lieu de connaissance, une arrogance et une fatuité sans bornes. Au lieu du labeur, paresse et obscénité. Pas de sens de la justice. Un sens de l'honneur qui ne va pas plus loin que l'honneur de l'uniforme. Un uniforme que l'on voit chaque jour orner le banc des accusés. Il faut travailler. Et au diable tout le reste. Surtout, il faut être juste. Tout le reste suivra. J'ai passionnément envie de parler avec vous. Mon âme est en ébullition. Que le ciel vous protège. Votre Anton Tchekhov.
Гусев.
Гусьев.
Часть первая.
Première partie.
Il fait déjà sombre. La nuit va tomber. Гусьев, simple soldat envoyé dans ses foyers, se soulève sur son hamac et dit à mi-voix. T'entends, Ivanitch ? À Souchan, un soldat m'a raconté que quand ils sont partis, leur bateau s'est cogné dans un énorme poisson et que ça leur a défoncé la cale. L'homme, de condition mal définie, à qui s'adresse Gusiov, et qu'à l'infirmerie du bord tout le monde appelle Ivanitch, ne répond pas plus que s'il était sourd. Il dort assis, parce que couché il étouffe. Il a un visage gris, un long nez pointu, des yeux que sa maigreur effrayante fait paraître énormes. Ses tempes se sont creusées, sa barbe est clairsemée, ses cheveux longs. Impossible, en regardant son visage, de deviner sa condition sociale. Est-ce un noble, un marchand ou un paysan ? À son expression et à ses longs cheveux, on le prendrait pour un anachorète, un frère convert. Mais quand on l'écoute, on dirait bien que ce n'est pas un moine non plus. Sa toux, l'atmosphère étouffante et sa maladie l'ont épuisé. Et c'est à nouveau le silence. Le vent erre dans les agrès, l'hélice cogne, les vagues clapotent, les chats y grincent, mais l'oreille s'est faite depuis longtemps à ces sons, et il semble qu'alentour tout dort sans bruit. On dirait que le bateau commence à tanguer. Le hamac de Goussiov monte et descend lentement, comme s'il soupirait, et ainsi une fois, deux fois, trois fois. Quelque chose heurte le plancher et tinte. Ce doit être un quart qui est tombé. « Le vent s'est déchaîné, » dit Goussiov en prêtant l'oreille. Cette fois, Ivanitch tousse et répond d'un ton irrité. « Tantôt c'est ton bateau qui s'échoue sur un poisson, tantôt c'est le vent qui se déchaîne. Le vent est-il une bête, hein, pour rompre sa chaîne ?» Ivanitch est sujet au mal de mer. Quand il y a du tangage, d'ordinaire il se fâche et s'irrite pour la moindre bagatelle. Et de l'avis de Goussiov, il n'y a aucune raison de se fâcher. Qu'y a-t-il de bizarre, et même de compliqué dans ce poisson, par exemple, ou dans le vent qui se déchaîne? Supposons que le poisson soit grand comme une montagne, et qu'il ait le dos aussi dur que celui d'un esturgeon. Supposons aussi que là-bas, au bout du monde, il y ait de grosses murailles de pierre, et que les vents mauvais y soient enchaînés. S'ils n'ont pas rompu leur chaîne, pourquoi se démènent-ils sur toute l'étendue de la mer comme des possédés, comme des chiens à la tâche? Si on ne les enchaîne pas, où passe-t-il quand tout est calme? Goussiov songe longuement à des poissons grands comme des montagnes et à de grosses chaînes rouillées, puis l'ennui s'empare de lui et il se met à penser à son pays natal où il rentre maintenant, après 5 ans de service en Extrême-Orient. Devant ses yeux se dessine un immense étang couvert de neige. D'un côté se dresse une manufacture de porcelaine couleur de brique, avec une haute cheminée et des nuages de fumée noire. De l'autre côté, c'est son village. De la cour de la 5e ferme à partir du bout, sort le traîneau de son frère Alexei. Derrière lui, son petit gars, Vasya, chaussé de grandes bottes de feutre, et sa petite fille Akulka, elle aussi en bottes de feutre. Alexei est entre 2 pichets de vin, Vasya rit. Quant au visage d'Akulka, on ne l'aperçoit pas, il est emmitouflé. Pourvu qu'il ne fasse pas geler les enfants, songe Goussiov.
À Ivan Leontievich Cheglov.
Ancien officier d'artillerie, Ivan Cheglov a d'abord publié avec succès des récits militaires sous le pseudonyme de Leontiev. Dans les années 1890, il se spécialise dans les récits et les pièces humoristiques.
Moskva.
Moscou, le 9 décembre 1890. Bonjour, cher Jean. Par la volonté du destin, l'étoile filante est revenue dans votre constellation. Je suis de nouveau à Moscou et vous écris. Encore une fois, bonjour. Je ne vous décrirai pas mon voyage et mon séjour à Sakhaline, car cet écrit, même raccourci, rendrait ma lettre particulièrement longue. Je vous dirai seulement que je suis heureux jusqu'à la racine des cheveux et enchanté à un point tel que je ne désire rien et ne serais pas offusqué si la paralysie m'envahissait ou si la dysenterie m'emportait dans l'autre monde. Je peux dire, j'ai vécu, j'ai tout vu, je suis allé en enfer, tel qu'il apparaît à Sakhaline, et au paradis, je veux dire à Ceylan. Ah mon ange, si vous saviez les charmantes petites bêtes que j'ai ramenées d'Inde, ce sont des mangoustes, grosses comme des chatons, des animaux gais et alertes. Leur qualité, hardiesse, curiosité et attachement envers l'homme. Lorsqu'elles partent au combat avec un serpent à sonnette, elles ont toujours le dessus. Elles ne craignent rien ni personne. Concernant leur curiosité, il n'est dans une pièce aucun sac et petit paquet qu'elle n'ait ouvert. En voyant quelqu'un, elles vont avant toute chose dans ses poches. Que renferme-t-elle? Lorsqu'elles restent seules dans une pièce, elles se mettent à pleurer. Vrai, il faut que vous veniez de Pétersbourg les voir. Mon salut cordial à votre épouse, votre Anton Tchekhov. La famille vous salue.
Goussiov, часть вторая.
Goussiov, deuxième partie.
Deux jours passent. Le bateau ne tangue pas. La mer est calme. En revanche, il fait lourd et chaud, comme dans une étuve. On a de la peine, non seulement à parler, mais à écouter. Goussiov serre ses genoux dans ses bras, y pose la tête et pense au pays natal. Mon Dieu, dans une pareille fournaise, quel délice de rêver à la neige et au froid. On est en traîneau, tout à coup les chevaux prennent peur et s'emballent. Ne connaissant plus ni chemin, ni fossé, ni ravin, ils filent comme des enragés d'un bout à l'autre du village, à travers l'étang, le long de la fabrique, puis à travers champs. « Wow !» crient à pleine gorge les ouvriers et les passants. Mais pourquoi les arrêter ? Que la bise glacée cingle les visages et morde les mains. Que les paquets de neige soulevés par les sabots tombent sur les bonnets, se glissent sous les cols, coulent sur les cous et les poitrines. Que les patins du traîneau crissent. Que les traits et le palonnier se rompent, que le diable les emporte. Et quel délice quand le traîneau verse et qu'on s'étale dans une congère, le nez dans la neige et qu'on se relève tout blanc, des glaçons aux moustaches. Plus de bonnet, plus de moufles, la ceinture défaite. Les gens rient aux éclats, les chiens aboient. Une heure passe, deux, trois. Le soir tombe, puis la nuit. Mais Goussiov ne s'en aperçoit pas. Il est toujours assis et rêve au froid. Au bruit, on dirait que quelqu'un est entré à l'infirmerie. Des voix résonnent, mais cinq minutes passent et tout se tait. « Que le royaume des cieux, que le repos éternel lui soit donné, » dit le soldat au bras bandé. « Quel agité, cet homme-là » « Quoi ?» demande Goussiov. « Qui ?»« Il est mort, on vient de l'emporter là-haut. De qui tu parles ?»« D'Ivanitch ?» Le soldat au bras bandé s'assied sur le hamac près de Goussiov et dit à mi-voix « Toi aussi, Goussiov, tu n'en as pas pour longtemps sur cette terre. T'arriveras pas en Russie. Tu l'as entendu dire par le docteur ou l'aide-major ?» demande Goussiov. C'est pas qu'on me l'ait dit. Mais ça se voit. Un homme qui va mourir, ça se voit du premier coup. Tu manges pas, tu bois pas, t'as maigri à faire peur. Bref, c'est la tuberculose. Je dis pas ça pour t'inquiéter. Mais peut-être que tu veux communier et recevoir l'extrême onction. Si t'as de l'argent, tu devrais le donner au commandant. Je n'ai pas écrit chez moi, soupire Goussiov. Je vais mourir. Et ils le sauront même pas. « Ils le sauront, » dit le matelot malade de sa voix profonde. « Quand tu mourras, on le notera dans le journal de bord et on en remettra un extrait au commandant d'armes d'Odessa qui l'enverra au district ou là où il faut. » Ces propos ont rempli Goussiov d'angoisse et un désir indéfinissable commence à l'oppresser. Il boit de l'eau, mais ce n'est pas ça. Il se traîne vers le hublot et aspire l'air brûlant. Ce n'est pas ça non plus. Il essaie de penser au pays natal, au froid. C'est toujours pas ça. Oh, je me sens mal, les gars. Je vais en haut. Mettez-moi là-haut, au nom du Christ. D'accord, soupire le soldat au bras bandé. Tu n'y arriveras pas, je vais te porter. Tiens-toi à mon cou. Goussiov passe son bras autour du cou du soldat qui l'enserre de son bras valide et le porte en haut. Sur le pont, dorment pêle-mêle soldats et matelots renvoyés dans leur foyer. Il y en a tant qu'on peut à peine passer. Ça sent le fumier et le foin. Mufles baissés, des taureaux sont debout près du bastingage. Un, deux, trois, huit en tout. Il y a aussi un petit cheval. C'est Goussiov qui rompt le premier le silence. Ça n'a rien de terrible. On est seulement angoissé comme dans une forêt obscure. Et mourir, ça te fait peur ?
Oui.
J'ai un frère à la maison, vois-tu ? Il n'est pas sérieux. Il boit. Il bat sa femme sans raison. Il n'a pas de respect pour les parents. Sans moi, tout ira à la ruine. Et mon père et ma mère, j'ai bien peur qu'ils n'aient plus qu'à mendier.
Алексей Сергеевич Суворин. Москва, 17 декабря.
Moscou, le 17 décembre 1890. Mon cher, je viens de vous télégraphier que vous aurez votre récit. J'en ai un qui convient, mais il est trop long et mince comme un scolopendre. Il faut le nettoyer un peu et le reprendre. Je vous l'enverrai sans faute, car je ne suis plus un paresseux désormais. Je suis un travailleur. Quand je viendrai, je vous raconterai tout depuis le début. Comme vous aviez tort de me déconseiller d'aller à Sakhaline, j'ai maintenant tout à la fois un petit bedon, une gentille impuissance, des myriades de moucherons dans la tête, une quantité diabolique de projets et toutes sortes de trucs, alors que si j'étais resté à la maison, quel aigre personnage je serais. Avant ce voyage, la sonate à Kreutzer était pour moi un événement. Maintenant, elle me fait rire et me semble niaise. Soit ce voyage m'a mûri, soit il m'a rendu fou. Le diable seul le sait. Votre Anton Tchekhov.
Гусев, третья и последняя часть.
Troisième et dernière partie.
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз.
Гусев revient à l'infirmerie et s'allonge sur son chalet. Il s'assoupit, délire, et vers le matin, épuisé par les cauchemars, la toux, la chaleur suffocante, s'endort profondément. Il rêve qu'à la caserne, on vient de défourner le pain, qu'il s'est glissé dans le four, qu'il y prend un bain de vapeur et se frotte avec un balai de bouleau. Il dort 2 jours de suite. Et le troisième, à midi, 2 matelots descendent à l'infirmerie pour l'emporter. On le coud dans une toile à voile et pour le rendre plus lourd, on y met 2 barres de fer. Une fois cousu dans la toile, il a l'air d'une carotte ou d'un gros radis, large de la tête, étroit des pieds. Avant le coucher du soleil, on le porte sur le pont et on le dépose sur une planche dont une des extrémités repose sur le bastingage et l'autre sur une caisse placée sur un tabouret. Tout autour se tiennent les libérables et l'équipage tête nue. « Béni soit notre Dieu, » commence le prêtre, « toujours aujourd'hui comme demain et pour les siècles des siècles. » « Ah ah ah, amen !» chantent 3 matelots. L'homme de quart soulève l'extrémité de la planche, Gusiov glisse, plonge vers le bas la tête la première, puis culbute sur lui-même, et floc, l'écume le recouvre. Et un instant, il semble enveloppé de dentelle. Mais l'instant est passé, et il disparaît dans les vagues. Il coule rapidement. Atteindra-t-il le fond? Le fond est à 4000 verstes, à ce qu'on dit. Quand Gusiov a parcouru 8 à 10 sagen, il commence à ralentir. Voici qu'il rencontre un banc de poissons, appelé pilote. Apercevant un corps noir, il s'arrête, comme figé sur place, et brusquement, tous à la fois font volte-face et disparaissent. Après quoi apparaît un autre corps noir. C'est un requin. D'un air important, boudeur, comme s'il ne remarquait pas Gusiov, il lui passe dessous et le cadavre lui tombe sur le dos. Puis le squale se retourne, ventre à l'air, se prélasse dans l'eau tiède, transparente, et ouvre indolemment sa gueule à double rangée de dents. En haut, pendant ce temps, du côté du couchant, des nuages s'amoncellent. L'un d'eux ressemble à un arc de triomphe, un autre à un lion, un troisième à des ciseaux. De derrière les nuages sort un long rayon vert qui s'étire jusqu'au milieu du ciel. Peu après, vient s'allonger à côté de lui un rayon violet, à côté de celui-ci un doré, puis un rose. Le ciel devient mauve tendre. En regardant ce ciel splendide, enchanteur, l'océan commence par prendre un air maussade, mais bien vite il revêt lui-même des couleurs tendres, radieuses, passionnées, auxquelles le langage des hommes a de la peine à donner un nom.
Алексей Сергеевич Суворин.
Moscou, le 24 décembre 1890. Nous vous souhaitons, à vous et à toute votre vénérable famille, de joyeuses fêtes, ainsi que santé et prospérité pour les nombreuses années à venir. Drôle d'histoire ! Durant tout mon voyage aller-retour à Sakhaline, je me sentais en parfaite santé. Maintenant que je suis à la maison, il m'arrive le diable sait quoi. J'ai des maux de tête, une langueur dans tout le corps, une indifférence. Je me fatigue vite et surtout j'ai des troubles du rythme cardiaque. À tout instant, mon cœur s'arrête durant quelques secondes et cesse de battre. Je vous ai envoyé mon récit hier, je crains d'avoir trop tardé. Il est courtois, mais tant pis. Bon, que Dieu vous accorde tout le meilleur et surtout la santé. Votre Anton Tchekhov.
Алексей Сергеевич Суворин.
Мелихова.
Le 8 avril 1892.
Figurez-vous que, aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai déjà la trentaine bien sonnée. J'ai vieilli non seulement physiquement, mais moralement. Je suis en quelque sorte devenu bêtement indifférent à tout. Du lever au coucher, ne me quitte pas la sensation que mon intérêt pour la vie s'est tari. Est-ce la maladie que dans les journaux on appelle surmenage, ou est-ce le travail de l'âme, imperceptible à la conscience, que dans les romans on appelle révolution spirituelle? Dans le second cas, tout est pour le mieux. Le peintre Lévitant est mon hôte. Hier soir, nous sommes partis ensemble à l'affût. Il a tiré une bécasse. Celle-ci, touchée à l'aile, est tombée dans une flaque. Je l'ai relevée. Un long bec, de grands yeux noirs et un plumage magnifique. Elle nous regarde étonnée. Qu'en faire? Lévitant esquisse une grimace douloureuse, il ferme les yeux et avec un trémolo dans la voix me dit « Ma colombe, frappe-lui donc la tête contre la crosse de ton fusil. » Je lui réponds « Je ne peux pas. » Il continue à hausser nerveusement les épaules avec des tressaillements de la tête et persiste. La bécasse continue à nous regarder, toujours étonnée. Il fallut obéir à Lévitant et la tuer. Il y eut ainsi sur la terre une belle créature amoureuse de moins, tandis que Denigo rentrait à la maison et s'attablait pour le dîner. Portez-vous bien et soyez heureux. Votre Anton Tchekhov.
Anton Tchekhov, le voyage à Sakhaline. Cinquième et dernier épisode, Le diable seul le sait. Lu par Vladislav Galar. Texte choisi par Jean Torrent. Avec les voix de Hodja Lorca et Olga Kokorina. Violoncelle et chant, Vladislav Galar. Réalisation, Christophe Hockey. Prise de son, montage, mixage, Bastien Varigo, Titouan Oex. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Les lettres d'Anton Tchekhov sont tirées de « Vivre mes rêves, lettres d'une vie », traduction Nadine Dubourvieux, édition Robert Laffont, et des « Lettres de voyage », traduction Françoise Darnal-Lainé, édition de l'Harmattan. Goussioff, traduction Édouard Parer, est publié chez Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade. Thank you.